Bon vendredi! Enfin, on est vendredi 14 janvier 2022. Bienvenue au FM 93. Bienvenue dans Trudeau Landry. Mon nom est Jonathan Trudeau. Très content de vous retrouver en ce beau vendredi simili-ensoleillé, mais qui est le prélude à une journée frate demain. Très, très froide.
Je suis un bon chialeux contre l'hiver, mais c'est pas une journée semi-ensoleillée. Il fait beau en tabarnak.
Non, mais c'est parce que je me suis tourné vers dehors en le disant, okay. Puis si tu regardes ici à ma gauche, quand même, c'est nuageux. Il n'y a pas de soleil à gauche.
Là. OK, mais ce matin, là, en tout cas, cet avant-midi, c'était même très beau. J'haïs l'hiver. Moi, j'arrive dans le bout où je suis vraiment écœuré de l'hiver. Là. J'arrive là-dedans. Là. J'en ai déjà jusque-là. Hey, ce matin, c'était très beau. J'ai pris une petite marche dehors. C'était moins 9, moins 10. C'est pas si pire aujourd'hui. Là.
Moi, j'arrive dans le bout de l'hiver où... Il y a des auditeurs qui vont m'envoyer promener, mais où je commence à dire que l'hiver est presque fini.
Hein? Oh boy! Ouais.
Le PM nous a dit hier que le printemps arrivait de toute façon.
Ouais, après le printemps, qu'est-ce qu'il a dit? Non?
Ouais, après l'hiver vient le printemps.
Vient le printemps. Ouais,
ça, là, ça. On va y venir dans quelques instants à conférence de presse, mais quand le PM sort des affaires qui ressemblent à la première vague,
oui.
Tu sais, en avril, on lâche pas d'un fil les affaires.
Ouais, on n'a pas besoin
ça fait comme,
de ça. Hein?
Moi, là, ce que ça fait ça de même. Le cœur t'élève, là. Je sais qu'il veut pas mal faire, là. Mais ça rappelle des mauvais souvenirs. Bref, moins 10, on ressent moins 16 en ce moment. C'est ensoleillé, mais avec quelques passages nuageux. Mais ça va se refroidir beaucoup. Cette nuit, moins 25 avec un ressenti à moins 35. Et dans la journée de demain, plein soleil. Un peu un scénario qu'on a vécu plus tôt cette semaine à moins 20 degrés. Mais on va ressentir moins 26. Ce sera pas plus chaud dimanche. Il nous garde ça pour la fin de semaine. C'est fin. Merci, Gaïa.
Mais on s'en fout,
maman
là,
la terre.
Avec le football qui est à TV en fin de semaine. Toi, t'as Star Academy. Moi et Alex, on a la NFL. Toi, t'as Star Academy qui recommence. On s'en balance, la météo, en fin de semaine. Là,
non, mais faut que j'aille nourrir mes maisons.
Ah, OK. Mais t'as pas le droit de dire que l'hiver est presque fini.
Oui, non, mais c'est ça. Regarde. Je vais reprendre ma façon, mon principe pour faire la route entre Québec et Montréal par la 40.
Ouais.
J'ai pas été capable d'adapter ce que je vais te dire à la 20 depuis que je prends la 20 parce que je reste à Lévis, mais toutes les années où j'ai fait Québec-Montréal par la 40, j'ai toujours découpé ça.
Oui.
Tu sais, en partant de Laval, la première étape, c'était Joliette.
Oh oui.
Tu sais, je me rendais pas à Québec, je me rendais à Joliette. Après ça, je me rendais à Trois-Rivières. Après ça, je me rendais à Donnacona. Puis quand tu le vois comme ça, je trouve que la route... Écoute, ça peut être puissant, là, le psychologique. La route te paraît moins longue. Mais... Donc moi, à partir de janvier, je regarde la mi-mars, c'est quand? Parce que tu vois, la fête à mon gars, c'est fête des Irlandais, 17 mars. Et je sais que, rendu à la fête à mon gars, il y a des journées où il va faire du 3-4 degrés, la neige commence à fondre. Il peut avoir encore des tempêtes.
Ouais.
Mais bon. Puis là, je me dis, à partir de mi-janvier, mi-mars, c'est deux mois, ça se découpe assez bien. Là.
Oui,
ça
va passer vite. Il y a des étapes. Le carnaval, c'est une étape. Puis ça, c'est rien contre le carnaval. Mais quand le carnaval se termine, je me dis, oh, okay, on a un bout de fête. Noël, jour de l'an, carnaval. Mais tu sais, dans le temps qu'on avait une vie, là, qu'on pouvait voyager, là, je me souviens des fois, je me bouquais un voyage, mettons, le 14 février. Là, tu pars le 14 février, quelques jours à Punta Cana, tu reviens, oh là, t'as l'impression que c'est quasiment fini, mais non. Le mois de mars, tu fais toujours garrocher des tempêtes, tu fais toujours garrocher des moins 10, des moins 12, ce genre de température.
C'est ça.
Aussi, là.
Mais tu vois, dans les années où j'avais pris l'habitude d'avoir l'impression à la mi-janvier que l'hiver était presque fini, parce que...
tu me fais... Excuse-moi.
C'est envie. C'est que souvent, on essayait de se booker un voyage dans le sud à la fin janvier.
Ouais.
Tu sais, quand les enfants étaient plus jeunes, premièrement, oublie la pandémie, là, même là, ça devient plus compliqué de partir quand c'est pas la semaine de relâche, tu sais, pour leur faire manquer de l'école. Mais pendant quelques années, on faisait ça, on essayait de partir fin janvier. Puis là, vraiment, ça découpait l'hiver en deux. Tu sautes une semaine
mais c'est pas fini.
De fret. Oui, mais c'est l'étapisme.
C'est l'étapisme.
C'est comme le Québec-Montréal par la 40. C'est l'étapisme.
Non, tu me fais penser des fois quand on est mardi, je me dis on est presque mercredi.
Exact.
J'essaye de le voir de même aussi. Là.
Bon, puis comment tu vas, toi? Comment va ta troisième dose? Comment tu vas?
Je suis obligé de te dire, tu sais, j'hésite à en parler. Je veux pas que des gens tirent des conclusions puis aillent pas se faire vacciner à cause de ça, là, mais je veux te dire que dans les trois doses, ça va être juste un booster, là. J'ai un peu l'impression de m'être fait rouler dessus par un truck. Un petit peu. Pas assez pour pas venir travailler. Là,
pas comme Nico, non.
Pas comme Nico, quoique je pense Nico, écoute, il joue aux jeux vidéo, là. C'est de bonne guerre, là. C'est bien correct, ça. Mais non, je l'agace.
Ça va être fâché encore.
On dirait un peu que.
Qu'est-ce que t'as?
C'est musculaire un peu. T'sais, j'ai pas des grosses douleurs. C'est comme.
Mais pas juste sur le lieu de la vaccination.
Sur l'épaule.
Okay, mais ça,
c'est mais c'est généralisé aussi un peu. Je suis comme okay. Je suis à 80%. Hier, je me sentais à 90. Là, je me sens un peu à 80%.
OK. Là. T'as-tu transpiré?
Non. Non.
Kiwi
non,
m'a non, dit non, qu'il non. a sué l'eau de son baptême cette nuit. Là.
Ah, ouais.
Qu'il allait mieux, mais que Kiwi a eu chaud. Là.
OK. Mais...
Il y a eu Kiwi 30.
OK. Mais je sais. J'ai failli faire un Nico. Ça passe proche que,
ah oui.
que je fasse un Nico ce matin. Là.
Ben ouais, tu dois ouais, être à moins de 80 d'abord.
Je me suis recouché une heure, ça a fait du bien. Mais puis j'ai, comme je t'ai dit, je suis transparent, mais empêchez-vous pas de chercher votre booster à cause de ça.
Deux premières
doses. C'est pas des complications.
Ça. Rafraîchis-moi la mémoire. Deux premières doses, t'as-tu rien eu ou ça avait été un petit peu...
J'étais à 95%. Petite sensation de... Tu sais, des fois, quand tu couvres une grippe, là, quand dans le temps qu'il y avait des grippes, on dit... T'sais,
oui.
J'ai entendu ça, là.
Oui.
T'as l'impression que t'es sur le bord de commencer à faire la fièvre.
Oui.
On dirait que je sens une chaleur dans mes oreilles un peu, là. T'sais,
OK.
C'est,
parce
c'est
que
ça,
la question
là,
que je me pose,
là, c'est un peu plus.
Puis je la pose aux auditeurs, là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont rien eu comme effet secondaire, première, deuxième dose, et qui l'ont eu tough à la troisième? Ou des gens comme toi qui avaient eu un peu d'effet première, un petit peu d'effet deuxième, l'ont plus tough à la troisième? Parce que, tu vois, moi, j'ai eu zéro effet. Première, deuxième ouais. dose, 0-0-0. Mm-hmm. Donc, est-ce que ça veut dire que j'ai peut-être plus de chances d'avoir encore zéro effet? Est-ce que mon corps réagit bien à ces vaccins-là?
Je sais pas, mais...
Ma blonde, trois doses, a rien ressenti
rien,
non plus.
Rien.
Non.
Mais écoute, c'est peut-être psychologique aussi. Je suis pas assez malade pour te dire, OK, je suis vraiment malade. Là. C'est pas... je me demande si c'est pas entre mes deux oreilles aussi. C'est peut-être la fatigue de la semaine de l'hiver qui est juste beau. Mais je sens que c'est un peu pire pour la dose de rappel.
Théorie à deux semaines, mais il y a beaucoup de monde alentour de moi qui ont eu Pfizer deux fois puis que là, ils ont été en pharmacie comme toi avec Moderna.
Ouais.
Et eux, ça les a, la troisième les a tapés.
Ben, c'est là, ça. Moi, c'est un Moderna, là, la troisième.
Je suis pas un scientifique, là, mais il peut-tu y avoir une explication là de... Même si c'est la même
technologie. C'est la même
technologie.
Dans le fond, c'est
mais
le même...
J'ai remarqué ça à l'entour de moi. Des gens qui ont été au centre de fond deux fois, là, en pharmacie, la troisième, puis ils trouvent la semaine rough un petit peu.
C'est ça, mais là, ce que j'aime pas, c'est qu'il y en a qui vont dire, « OK, on vous l'avait dit, bon, on est malade. » C'est pas être malade,
mais
ça.
Non.
C'est des effets secondaires. C'est pas des complications. Ça n'a absolument rien à voir avec des complications. C'est surtout pas une raison pour pas aller chercher le booster.
C'est même ce que ma blonde appelle une bonne nouvelle.
Ben,
parce qu'elle, en tant que médecin, elle dit que si tu ressens des effets, c'est la preuve que ton système immunitaire combat ou réagit à ce qui a été mis dans le corps, donc qui est en train de s'activer, qui est en train de...
Je viens d'avoir un cri de frisson. Là. Ça vient de me traverser. Là. Ça fait 24 heures. Là,
bouger.
Oui, c'est...
Va jouer à Madden chez vous. On va s'occuper de ça.
Non. Je ferai pas écho, là. Non. C'est pas assez ressenti pour dire je travaillerai pas, là. C'est pas ça, là. Ça enverrait un très mauvais message, je trouve.
Hey, d'ailleurs, à la fin de l'émission, il n'y a pas de quiz Saint-Hubert cette semaine. Ça revient la semaine prochaine. Mais Nico a eu l'idée de jouer... écoute, on réinvente rien, là, mais on va jouer à deux vérités, un mensonge. Finalement, c'est au détecteur de mensonges. Je sais pas si dans ses affirmations, Nico va avoir... J'ai manqué de l'ouvrage à cause des effets de mon troisième vaccin. Vrai ou faux? D'ailleurs, Alex, tu voulais pas inviter quelqu'un d'autre toi, ici?
Ben, si elle est disponible, moi, à 2 heures, j'aimerais ça que Marguerite Blais joue avec nous, mais si elle n'est pas disponible, je comprendrais aussi, mais sinon, elle peut nous appeler.
Ouais. On va parler de P-Rod.
On va en parler de Marguerite Blais. OK, on va revenir aux choses un peu plus sérieuses. On est vendredi, par contre, on va s'en aller, vous êtes habitués, vers le plus léger. Je parlais de vérité, mensonge. Il y aurait également les nouveautés de la semaine avec Nico un peu plus tard dans l'émission. Mais revenons évidemment sur le point de presse d'hier. Je ne sais pas si je suis tout seul à avoir eu cette impression-là. J'écoutais la conférence de presse dans l'auto. J'avais Saint-Denis le 93 avec Sylvain et sa gang. J'écoutais François Legault. Et le feeling que j'avais, c'était « Coudonc, j'ai-tu manqué 5, 6, 7 points de presse, moi, là? Il s'est passé quoi, là? J'ai-tu été cryogénisé puis que j'ai manqué quelque chose? » Parce que le ton, les constats étaient totalement différents sur deux niveaux que j'ai retenus. La notion que le virus était différent, qu'il était moins virulent, donc que l'approche pouvait être différente, il n'y a pas personne qui a été jeté en bas de sa chaise d'apprendre ça. parce que ça circule, c'était une hypothèse. Mais là, soudainement, le gouvernement est arrivé en nous disant on fait pas juste se questionner ou dire qu'on veut valider ça. Désormais, dans le fond, ce qu'on nous a annoncé, c'est que on se gouvernait en fonction de ce constat-là. Ce qui était totalement nouveau. On l'a pas vu venir. Tu sais, d'habitude, le gouvernement mettait la table, si on veut. Là, c'est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. L'autre chose, ben, c'était l'espèce de notion que finalement, la situation était sur le bord de s'améliorer. Pas qu'elle est en train de s'améliorer, mais que le pic aurait été atteint au niveau de la contagion, puis que dans les prochains jours, ça s'améliorerait.
Mais comment ça, ils font pas vu venir? Pour mesurer ça alors qu'on n'a plus le nombre de cas, on a perdu le fil du nombre de cas, puis on peut plus savoir le taux de positivité. T'sais, on peut pas faire de grandes
analyses. Entre autres, parce que moi, cas, honnêtement, ça faisait quelques jours que dans mes discussions avec les gens au gouvernement, on commençait à me parler un peu de ça. Qu'il était, t'sais, il était pas pessimiste, qu'il y avait des signaux qui n'étaient pas encore confirmés, mais que il y avait certains indicateurs, dont, par exemple, le taux de positivité chez les tests qui se font encore PCR pour le personnel de la santé. C'est ça, parce qu'ils disent le nombre de cas n'est pas une bonne idée de ce qu'il y a dans la population, mais il reste que quand tu vois le taux de positivité, en tout cas, quand on m'en avait parlé cette semaine, avait chuté de 5 ou 8 % en quelques jours à peu près. Donc, c'est des indicateurs comme ça qui leur permettent de penser que là, oui, l'augmentation qu'on a encore dans les hospitalisations, c'est dû à la contagion immense qu'on avait il y a 2 semaines, mais que là, peut-être qu'on va pogner un plateau puis que tranquillement, on va commencer à diminuer. Bref, moi, l'impression que j'ai, c'est que le gouvernement prend un risque. Là. Je sais pas si tu as cette impression-là, parce que d'habitude, quand il relâchait, il attendait toujours d'avoir des confirmations. Là. On pense que dans 2 semaines, ça va aller mieux. Là, ça allait
mais
mieux.
Mais c'est ça que je te disais hier sur le couvre-feu. Il y a 2 semaines, ça prend un couvre-feu. Là, on n'a même pas le temps de voir l'effet du couvre-feu. Moi, je doute de l'effet du couvre-feu, mais on le retire. Je dis,
moi, ça, là-dessus, c'est une erreur, là-dessus, OK, j'ai l'impression qu'au Québec, il y a à peu près juste Mario Dumont puis moi qui dit que le couvre-feu, c'est pas vrai que c'est pas bon. Par contre, je vais préciser ma pensée. Arrachez-moi pas des tomates au 25-2-2-6. Je pense pas qu'il était nécessaire, OK?
Ben, c'est ça.
Je l'aurais pas fait. Sauf que jamais je serais capable de dire qu'il n'y a pas un effet du couvre-feu. Voyons, c'est sûr que tu viens limiter les déplacements, donc des gens.
C'est ça.
Sauf que, est-ce que l'effet est suffisamment important pour le justifier une deuxième fois? Là, je pense que non.
Moi, je dis pourquoi c'est une très mauvaise décision. Puis je comprends, je l'ai même. J'écrivais à Nico pendant nos vacances pour lui expliquer pourquoi ils font ça. C'est que c'est une façon de limiter, d'intervenir pour essayer d'éviter des rassemblements illégaux. Mais le problème, Joe, là, c'est qu'ils nous ont garoché ça en plein temps des fêtes. On se fait dire, bang! 31 décembre, jour de l'an, non seulement vous n'avez pas le droit de recevoir personne, mais il y a un couvre-feu en plus. Psychologiquement, c'était difficile à encaisser. On a beau se gérer, puis on a beau garder la tête froide, c'était difficile à encaisser. Et ça a créé quoi? Ça a créé une baisse d'adhésion aux mesures. C'est pour ça que c'était pas bon, je pense, le couvre-feu. Toujours facile à analyser après, mais l'adhésion à une mesure, c'est important pour l'adhésion aux mesures en général aussi. Quand tu arrives avec une mesure qui décourage le monde, qui donne un coup de pelle dans la face, ben ça se peut qu'il y ait un décrochage général. C'est pour ça que c'était une erreur, le couvre-feu. Puis hier, ils l'ont enlevé, puis ils ont reconnu. Ils l'ont pas reconnu.
Ce qui était correct. C'est ça, mais tu sais, c'est une erreur. Je le répète, puis je vais être certain que tu comprends bien.
Je comprends très bien.
Très
bien. Je suis d'accord avec toi.
Je suis pas d'accord que. Ça n'a pas d'effet, le couvre-feu. Non, je suis sûr que ça a un effet.
Ça en a,
est-ce que c'est
ça limite,
suffisant?
Ça limite
pour,
des rassemblements.
C'est ça. Je le crois pas. Bref, ce qui soulève, bon, le couvre-feu, quand je dis qu'il prend, le gouvernement prend un risque, je parle pas du couvre-feu, je parle du retour à l'école. Mais je pense que c'est un risque qui est relativement calculé et un risque qui en vaut la peine. Ce matin, je regardais la couverture médiatique. J'étais un peu découragé, Jérôme. Et particulièrement quand tu regardais le topo dans la presse, qui je trouve la presse plus souvent est très, très, très balancée. Tu sais, veux pas, c'est pas le même profil que le Journal de Québec, le Journal de Montréal. C'est pas le même type de journal. Et le tableau était très sombre. C'était une catastrophe annoncée. Un retour mal perçu. C'est parce qu'un instant, il y a deux réalités en ce moment. Il y a la réalité du milieu de l'enseignement où les syndicats sont incapables de changer leur narratif. Je lisais, entre autres, le communiqué de presse Écoute, tu sais comment j'aime Sylvain Mallet de la F1. Hein?
Ouais.
Ben, tu sais, ça s'améliore pas, là. Mm-hmm. Je te lis la dernière phrase du communiqué de presse de la FAE. Les profs ne partagent pas la naïveté mièvre du ministre Roberge. Omicron est un variant potentiellement dangereux et hautement transmissible, pas un calinours. C'est quoi ce ton-là là, qui fait vieille bataille syndicale? Hey, on est dans la cinquième vague de pandémie. On a des jeunes qui souffrent et la question, c'est est-ce que le risque, il est acceptable? Et là, tu as des syndicats qui contribuent, je pense, à augmenter le sentiment de sécurité autant des parents, des enseignants, que des enfants même.
Ouais,
alors que mais... de l'autre côté, dans le milieu de la santé, les gens qui sont sur le terrain puis qui le vivent à tous les jours, t'as la FMSQ qui est venue nous dire, écoutez là, oui, il y a un risque, oui, il faut se faire vacciner, mais il est temps de voir le virus autrement, de travailler autrement avec lui. T'as des syndicats du milieu de la santé qui ont marché main dans la main avec le gouvernement hier en disant, on va avoir d'autres incitatifs pour qu'il y ait plus d'employés qui travaillent et qui reviennent en emploi ou quoi que ce soit. Mais la mieux l'enseignement, c'est comme si vraiment on venait d'envoyer tout le monde à l'abattoir. Je trouve que c'est démesuré.
Ils sont exposés parce que les écoles au Québec sont mal ventilées.
Ça, c'est un fait.
C'est un problème qui existait avant la COVID. Il y a des... C'est une autre à Québec, je pense qu'on est chanceux. Québec, là, ça va bien. C'est un milieu assez favorisé à Québec. Mais il y a des écoles à Montréal qui étaient déjà dans un état de décrépitude avancé avant la pandémie. Les écoles, en général, c'est pas toujours facile à ventiler. Il y a des écoles où c'est pire. Moi, je comprends les profs d'avoir des craintes aussi. Je me mets à leur place avec eux autres. Il y a 25-30 enfants devant eux autres qui peuvent, tu sais, qui sont pas tous vaccinés. Il y a pas encore, je comprends que le taux de vaccination augmente aussi. Mais je les comprends d'avoir ces craintes-là aussi. Ça veut-tu dire qu'il faut pas recommencer l'école lundi? Non. Mais je comprends les syndicats et les enseignants de dire, OK, est-ce qu'on peut avoir du matériel de protection? Êtes-vous sûr que les écoles sont bien ventilées? Êtes-vous sûr que... Je pense que c'est la moindre des choses.
C'est dans la mesure, c'est dans le ton. Je trouve que la situation est tellement... Ils ont tous réagi de la même façon.
Ouais, mais son,
c'est que la situation, elle est tellement critique pour, entre autres, nos enfants, que ça commande d'avoir un ton équilibré, ajusté. Donc, est-ce que les enseignants ont raison de se poser des questions, d'avoir des inquiétudes? Assurément.
Ouais, puis, mais on connaît.
Assurément. Est-ce qu'on peut critiquer le gouvernement sur le fait qu'on ne s'est pas attaqué au problème de la ventilation puis de la qualité de l'air dans les dernières années? Oui. Sauf que, est-ce que tout ça amène à dire que c'est une erreur de retourner les jeunes à l'école?
Ah ben non, c'est sûr.
J'aurais fallu les garder encore 2 semaines, 3 semaines en enseignement virtuel. Non, je m'excuse, mais
ben
non.
Mais non, c'est sûr que non. Mais en même temps, le ton de Mallette, moi, je l'ai écarté de ma vie, le Mallette, son ton. Ça changera jamais. Il changera jamais. Il fait son show. Mallette et... comment elle s'appelle aussi, Mme Scalabrini? Ils font leur show. Puis moi, je les ai sortis de mon esprit, là. Mais en même temps, on doit ça aux profs aussi. On peut pas leur dire, là, faites ce qu'on vous dit, là, puis encaissez, nos enfants ont besoin d'aller à l'école, puis ça va être ça, puis non, on peut
c'est
pas
pour ça que je te parle d'un ton ajusté, plus, Jérôme. C'est pour ça que je te parle d'un ton ajusté.
Les syndicats seront toujours les syndicats.
Ben, c'est dommage, parce qu'il y a des parents qui en souffrent aussi. Il y a des enfants qui vont être plus inquiets. OK, le temps file, on va assurément en reparler. Juste vous parler d'un truc que j'ai sorti sur Twitter, quelque chose de nouveau qui, je pense, va faire quand même jaser un peu. J'ai reçu ça d'un employé dans la fonction publique qui m'a envoyé un courriel acheminé au cours des dernières heures aux employés de la fonction publique. Et je lirai pas au complet, mais en gros, ça dit « En raison de l'augmentation importante des hospitalisations et des enjeux de main-d'œuvre dans les établissements de santé, le ministère sollicite, regarde, je vais le résumer, là, sollicite finalement les employés de la fonction publique pour aller travailler dans le milieu de la santé. » Et d'occuper le poste d'aide de service. Dans les exemples de tâches qu'on donne, là, déplacement des résidents sur civière ou chaise roulante, accompagnement des résidents pour des rendez-vous médicaux, surveillance des résidents, livraison des repas et ramassage des cabarets, aide à l'alimentation, donc les aider à manger, remplir les réserves sur les unités de soins, transporter du matériel, bref, d'être un peu en soutien aux préposés ou aux bénéficiaires. On en cherche 2165. Et j'ai la répartition partout par région. Là, par exemple, dans la Capitale-Nationale, on en recherche 50. Dans la Chaudière-Appalaches, c'est 25. Là où on en recherche le plus, c'est en Outaouais, 166. Mauricie, Centre du Québec, 220. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent là-bas.
Mais en gros, là, c'est, mettons, Jocelyne qui travaille dans un bureau.
À facturation.
Elle travaille dans un cartable, les classeurs,
on
la paperasse.
On demande de mettre des crocs puis d'aller travailler dans l'hôpital. Là.
C'est quelque chose, là.
C'est que là. J'ai l'impression de retourner à... D'avoir... je parlais tantôt du petit « quand le premier ministre fait des formulations qui nous rappellent la première vague, c'est un peu ça. Là. Souvenons-nous quand on disait « Ah, ben les écoles sont fermées, on va peut-être faire appel aux enseignantes, enseignants pour aller travailler dans les hôpitaux, faire du dépistage, des choses de même. » Là, dans le fond, là, on demande à l'ensemble de la fonction publique d'aller travailler dans les hôpitaux. Mais parallèlement à ça, hier, on nous dit « Écoutez, ça va aller mieux, on s'est entendu pour... » Et là, j'ai parlé au cabinet du ministre un peu avant d'entrer en onde, puis on me disait « Ouais, mais c'est pas nouveau qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre puis qu'on demande aux gens de contribuer. » Je dis « Je sais. » Sauf que vous demandiez, via « Je contribue » à des gens qui avaient une expérience, par exemple, de revenir en emploi. Vous cherchiez des incitatifs pour que les gens qui travaillent déjà dans le système de santé travaillent davantage. Il a forcé de constater que ça, c'est pas assez. Et on se tourne vers la fonction publique at large pour dire « Pouvez-vous venir nous aider, là? »
C'est un peu comme les parents dans les écoles, là. Où on va peut-être faire appel à des parents s'il y a des problèmes d'absentéisme chez les enseignants. Là, on est même rendu à dire, je me souviens pas quel média ce matin disait que s'il y a des parents qui vont aider dans les écoles, ils n'auront pas à se plier à la loi 21 sur le port des signes religieux.
Ah, mais là, ben, j'avoue.
J'ai mal à la tête. J'en ai mal à la tête. Qu'on soit rendu dans ces analyses-là.
Mais c'est un plan de contingence, ça. Sérieusement, là, est-ce que ça va vraiment arriver qu'il y a des parents qui vont se ramasser dans une classe?
Ben, écoute, Joe. Encore là, à Québec, on est ultra privilégié. Ouais. Mais il y a des endroits, même moins loin qu'on pense, où, avant la pandémie, il n'y a pas d'enseignant, par exemple, enseignant d'anglais. C'est un surveillant qui est là, puis ça en fait font des travaux, là. Tu sais, des fois, à Québec, là, on vit d'une bulle très, très privilégiée. C'est pas toujours le cas, là. Même avant la pandémie. Fait que, moi, je serais pas surpris que dans certaines écoles, ça arrive, Joe, qu'il y a des parents qui doivent aller dans des classes, là, dans le contexte actuel.
En passant, dans les tout derniers instants, il y a eu une réaction officielle du gouvernement au tweet que j'ai partagé là, avec cette information-là que je viens de vous donner. C'est l'attachée de presse de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, donc Florence Plourde, qui a répondu « En effet, les employés de l'État, sur une base volontaire et en concertation avec les syndicats, sont sollicités pour aller prêter main-forte aux employés du réseau de la santé. Tous les employés des ministères et organismes sont ou seront interpellés dans les prochains jours. » Donc, écoutez, analysez ça comme vous voulez. Je suis pas en train de dire que ce que le gouvernement a fait hier, c'est une erreur. Au contraire, fallait le faire. Mais je comprends qu'en même temps, le système de santé est encore sous tension, qu'on manque de monde et qu'on doit comprendre que les prochaines semaines vont quand même être tough dans le milieu de la santé.
Il n'est pas sous tension, le système de santé. Il s'est écroulé. Il s'est carrément écroulé pendant la période des fêtes. Ouais. C'est aussi simple que ça. Là.
Ça craque de partout.
Ben oui.
OK, on va faire une première pause. 25-226, c'est la messagerie texte si vous voulez nous écrire. S'il y a quoi que ce soit à signaler, notamment sur la route, on va s'espérer, on va se souhaiter un vendredi pas trop occupé sur le réseau routier. 418-670-9330.
Radio qui fait parler. 93. On prend une pause, puis on revient.
Dernièrement, un proche m'a parlé de ses problèmes de dette. Il était plus le même, c'était même inquiétant. Je lui ai dit qu'il n'y avait qu'une solution et qu'il n'y avait pas de honte à ça. Va rencontrer Jean Lelièvre, syndic autorisé en insolvabilité. Ben, c'est ce qu'il a fait. Jean Lelièvre et son équipe ont pris le temps de l'écouter, de le rassurer, surtout de trouver la solution. La faillite a été évitée. Avec la proposition de consommateur, il a pu rembourser ses dettes pour moins de 50%. Le bonheur! Problème financier? Jean Lelièvre syndic est là pour vous. JeanLelièvreSyndic.com, nous sommes votre allié.
Je vous parle de Philosophe, P-H-I-L-O-S-O-P, philosophe.com. Allez faire un tour là-dessus si vous êtes en train de magasiner ou êtes intéressé par des purificateurs d'air. Philosophe qui vous offre pas mal le meilleur, qui fit très, très bien, qui convient très, très bien à une résidence, mais ça peut être pour un espace commercial. C'est le Vortex 3500 que Philosophe vous propose à seulement 197 $. C'est un purificateur d'air qui est performant, pas de moteur, pas de filtre. Ça brasse pas l'air pour rien, ça fait pas circuler les aérosols. Au contraire, il va vous aider à bien contrôler la qualité de l'air de votre propriété. Et ça va aussi dans certains endroits où vous portez le masque. Là, des fois, ça peut être dans l'espace commercial. Ça, combiné au masque, évidemment, ça va vous aider à améliorer la qualité de l'air et ça va mieux vous protéger pour ceux qui ont des craintes. Philosophe, c'est acheter québécois en passant. Il y a des grandes surfaces qui offrent des purificateurs d'air, mais pourquoi pas acheter québécois avec une bonne entreprise, la Beauce. Philosophe.com, Vortex 3500 à 197 $.
93. La radio qui fait parler.
Vous souhaitez faire des choix plus santé en 2022? Commencez par bien dormir. Parce que lorsque vous dormez bien, tout le reste, vous le faites bien. Ce samedi et jusqu'à lundi seulement chez Dormez-vous, obtenez une couverture lestée gratuite à l'achat de tout matelas admissible. Une valeur de plus de 250 $. il est maintenant temps de vous réveiller avec tout le pouvoir qu'offre une bonne nuit de sommeil. Jusqu'à épuisement des stocks, le choix peut varier. Voyez les détails en magasin ou en ligne. Dormez bien, portez-vous bien, dormez-vous.
En cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca/isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec.
Gagner à la loterie Grande Ville, c'est 1 000 $ par jour à vie. Ça, là, c'est comme recevoir de l'argent de la Fée des dents. Ben, sauf qu'au lieu d'être un petit 50 cents par dent en dessous de votre oreiller, c'est un gros 1 000 $ par jour direct dans vos poches. Et en plus, vous gardez toutes vos dents. Pis c'est pas fini, là. Les 17 et 20 janvier, il y a encore plus de chances de gagner avec les lots Bonny. Ouais, 3 lots Bonny de 25 000 $ par année à vie à gagner chaque tirage. Et avec ça, là, pourriez avoir des belles palettes en or. Ou pas. Grande vie, tirage lundi et jeudi, 18 ans plus.
Vous avez un immeuble commercial et une porte à remplacer ou à mettre aux normes? Contactez Remplacement de Porte Commerciale Québec. Service clé en main qui comprend les conseils, la porte, la pose, les poignées, les serrures, bref, tout est réglé d'un coup. Visitez remplacementdeportecommercialequebec.com.
Cet hiver, je mets du soleil dans ma maison avec les boîtes gourmandes du 47.
Dès le 14 janvier, offrez-vous le forfait 10 boîtes gourmandes du 47. Un menu différent à chaque semaine jusqu'au 26 mars.
Cet hiver, je mets du soleil dans ma maison avec le 47. J'achète 10 boîtes gourmandes d'une valeur de 1 000 $ pour 850 $. Et je reçois l'exceptionnel coffret gourmand de la Saint-Valentin du 47 gratuitement.
Tous les détails sur le47.com.
Je m'en vais chez Jean Coutu, il nous manque plein de choses.
Ah, ben oublie pas la pâte à dents, mon shampoing.
Oups, hey, j'allais oublier ton shampoing.
Puis oublie pas de profiter de la belle offre Air Miles.
Ah, ça, c'est le genre d'affaires que j'oublie pas, par exemple.
Vendredi, samedi et dimanche chez Jean Coutu, achetez 60 $ ou plus de presque tout et obtenez 50 000 Air Miles en prime. C'est le moment de refaire le plein. Pour gagner du temps, découvrez le nouveau service Achetez en ligne et ramassez en succursale. Et vous pouvez aller chercher votre commande le jour même. Les détails à jeancoutu.com.
Vous avez une hypothèque? Depuis 20 ans, La Financière fait économiser les propriétaires d'ici. Bon ou mauvais crédit, dossier simple ou urgent, La Financière vous permet d'épargner en moyenne à chaque mois de 30 à 50 % par rapport à vos paiements actuels. Lafinancière.ca.
Le Québec vibre au rythme du Canadien. Que ce soit à Montréal ou à l'extérieur, c'est ici que vous pouvez les écouter. Tous les matchs, seulement à la radio officielle des Canadiens de Montréal.
Le Hockey des Canadiens vous est présenté par SR Assurance, fier partenaire de votre soirée de hockey.
Le réseau Cogeco, radiodiffuseur officiel du Canadien de Montréal. FM 93. Trudeau Landry. Sont beaux quand même.
Normalement, les examens de la vue, c'est aux 2 ans, hein?
Jérôme Landry, Jonathan Trudeau.
93. Ouais, je suis dû d'ailleurs, moi. Je vais être obligé de faire un tour chez Scoop Vision. J'ai commencé à porter, tu sais, des lunettes de lecture là, qui vendent là, dans les. Dans les Costco, les pharmacies, etc. J'ai commencé ça. C'est juste que ça va pas très bien, ces lunettes-là. C'est que. Si tu veux lire une page de journal au complet, rapidement, là, faut. Tu sais, ça va bien quand tu lis un texte, un livre, mettons, un roman, mais si tu lis plusieurs textes en même temps, tu balayes ça vite, c'est pas terrible. On est rendu là. Hey, on accueille notre journaliste Philippe Rodrigue Comeau en studio parce qu'il y avait un témoignage très attendu, Philippe, qui débutait ce matin, concernant, ben, c'est l'enquête du coroner, de la coroner Gamelle, concernant ce qui s'est passé dans les CHSLD lors de la première vague. Une situation qui a été décrite, entre autres, par la protectrice du citoyen. On sait déjà un peu ce qui s'est passé. Pas de personnel, pas de boss non plus dans les CHSLD, pas de matériel de protection. Et ça a tourné comme ça a tourné, malheureusement, avec plusieurs morts, beaucoup trop de décès dans les CHSLD. Et donc, ce matin, témoignage attendu, elle est sortie de son congé de maladie pour épuisement. La ministre responsable, entre guillemets, des aînés, je ne suis pas sûr qu'elle avait tant de responsabilités que ça, mais Marguerite Blais, donc, était quand même la ministre en titre. Et elle a commencé à témoigner, Philippe.
Oui, Jérôme, et on l'attendait, ce témoignage-là, depuis l'automne dernier. Là, son témoignage était prévu le 16 octobre dernier, puis finalement, ben, ça a été remis à aujourd'hui pour les raisons, entre autres, que tu as évoquées. Elle qui sort de son arrêt de travail pour épuisement professionnel, elle tenait d'ailleurs à... j'ai pas envie d'utiliser le mot défendre, mais c'est l'impression que j'ai eue en écoutant ce témoignage-là, défendre son bilan puis sa présence ou ses responsabilités durant les premiers mois de la COVID-19. La ministre des Aînés qui n'a pas perdu temps d'ailleurs avant de contredire des collègues, notamment Daniel McCann qui s'occupait de la santé à l'époque, le sous-ministre de Mme McCann et même d'Horacio Arruda, elle qui dit que le 28 janvier, on ne savait pas que la COVID allait toucher les personnes âgées et qu'on l'a seulement appris par l'OMS le 9 mars.
Ah ouais, OK.
C'est pas ce que dit Mme McCann qui dit, ben, il y a des avis qui ont été envoyés au mois de janvier à tous les établissements de santé. Puis selon ce que Marguerite Blais a avancé aujourd'hui, en voyant les avis avancés, elle dit, il n'y a rien qui était clairement indiqué. Attention, dans les CHSLD, ça risque de frapper fort. Puis on connaît l'horreur qui s'est passée par la suite.
Mais je veux pas sauter d'étape, OK? Je vais te laisser déballer ça. Puis en passant, c'est dommage, on peut pas vous faire entendre d'extrait. Ça, c'est très, très dommage. Là, ça devrait même être diffusé en direct
ben oui.
Sur les réseaux. Mais tu sais, autrement dit, est-ce que cette stratégie-là d'envoyer plus de gens à CHSLD, si on a vu de l'équipement de protection, du matériel, des employés et des dirigeants de CHSLD, est-ce qu'on aurait pu sauver des gens? Est-ce que la stratégie aurait pu fonctionner? Je sais pas si on s'est rendu là, mais bref, je te laisse continuer.
Je vais te donner les informations qui ont été évoquées durant ce témoignage-là, qui a quand même duré durant tout l'avant-midi, et tu en concluras ce que tu voudras avec ça. Ce qu'on a fait au début, à partir de janvier-février, c'est qu'on regardait ce qui se passait en Europe, en Italie. Mmh. Ça, je reprends un peu les mots de Marguerite Blais. Le gouvernement regardait ce qui se passait en Italie, puis ce qu'on remarquait, c'est que les hôpitaux se remplissaient, puis qu'on était en train de faire du triage pour décider qui allait avoir le droit d'obtenir des soins, puis peut-être de survivre. Alors, on s'est dépêché du côté du groupe de santé ici à Québec, de la genre de cellule qui n'était pas encore une cellule de crise, à libérer les hôpitaux pour qu'on ait assez de lits pour accueillir les gens parce qu'on pensait que les hôpitaux allaient se remplir. On n'avait aucunement un focus, selon ce qui est dit, sur les CHSLD.
C'est la vision hospitalo-centriste. C'est le terme qui revient depuis le début de l'enquête.
Ouais, puis on a tout pitché ça dans les CHSLD alors qu'il y avait...
C'est tout ce qu'on a dit aussi pour les CHSLD. Tu sais, la gastro, la grippe, Jérôme, ça fait en sorte que les CHSLD sont aptes à gérer des éclosions.
Ah,
c'est,
ouais.
C'est la mentalité qu'on avait. Puis tu sais, c'est facile avec le recul de dire hey, « la COVID a été épouvantable et s'est propagée de façon incroyable ». Mais au mois de janvier, on s'attendait pas à ce que ça soit aussi gros. On se dit ben, ça va être une éclosion comme la H1N1 peut-être,
ouais,
qui a passé assez rapidement.
Mais s'il y avait du personnel, des dirigeants, du matériel de protection, il y avait peut-être une meilleure chance. Mais même à ça, tu sais, un endroit comme l'Hôpital Général de Québec, là, voyons. Ça date de 1700 quelque chose avec des pas équipés pantoute là. T'sais, d'envoyer des gens là, c'était complètement.
Je vais revenir sur l'équipement de protection individuelle aussi pour les employés. Avant, je termine le dossier là avant qu'on arrive à la création de la cellule de crise. Le fameux pitch de Horacio Arruda qu'on a vu dans des reportages qui a été raconté aussi par différents journalistes où le 9 mars. Horacio Arruda fait le pitch de sa vie, là, c'est le même qu'il l'a décrit, là, où il dit à François Legault, son cabinet et plusieurs autres membres du gouvernement qu'il y a une grosse crise qui s'en vient. Pendant ce temps-là, ce jour-là, Marguerite Blais est dans un avion et elle revient de Floride parce qu'elle passait ses vacances de la relâche en Floride, donc elle ne faisait pas partie de la rencontre. Et ce qu'on comprend, c'est qu'elle n'était pas toujours invitée ou que son ministère ne faisait pas toujours partie des rencontres importantes concernant la COVID-19.
C'est une pancarte, OK? Puis je le dis pas méchamment. Marguerite Blais, c'était une animatrice à Télémétropole ultra populaire dans les années 80-90. Et c'est aussi une dame qui a eu un bon capital de sympathie parce qu'elle était aidante naturelle, son conjoint, etc. C'est pour ça qu'elle était là. C'est pas à cause de ses compétences.
Ben écoute, quand j'étais... Parce qu'on se souvient qu'elle était libérale avant. Elle est arrivée à l'époque où moi, j'étais au gouvernement.
Là, ça, c'est l'époque des clowns là dans les CHSLD.
Oui,
là. On va envoyer des clowns les pour
Foc,
les personnes âgées.
Paro, le Foc aussi.
Paro, ça, c'est Yves Bolduc.
Ça, c'était Yves Bolduc. Foc, hein, okay. Ouais. Mais et quand on faisait des tests de crédibilité, de notoriété des ministres ou d'appréciation, tu sais, était, écoute, dans la stratosphère
ben
par rapport
oui,
aux autres. Là, les autres étaient inconnus, c'est Marguerite Blais.
Mais oui, puis...
Très, tout ultra bien intentionné.
Oui, puis c'est ça, je veux pas...
Soyons clairs, là.
Madame de TVA, tu sais, c'est un peu... Regarde, j'ai l'air de blaguer un peu, mais ou de, tu sais, de l'avoir de travers, mais non. Elle a eu aussi un capital de sympathie. Rappelez-vous l'histoire de son conjoint, ça... Puis il fallait aussi, je veux dire, c'est normal que ça ait gonflé son capital de sympathie, mais c'est une pancarte. Pensez-vous vraiment que Marguerite Blais, c'est elle qui calait les shots, qui prenait les décisions, là? C'est un peu ce qu'on constate date aussi, là, Philippe. Là.
Elle était quand même entourée d'une équipe de sous-ministres. Ouais. Pour en terminer, là, avec l'avant 9 mars, là, où on a vraiment constaté qu'il y avait une vulnérabilité pour ce qui est des infections chez les aînés. Ce qu'on statuait, en gros, c'est qu'on pensait que ça allait aller dans les hôpitaux, puis on se disait que la culture de prévention contre les infections était tellement présente dans les CHSLD qu'on n'avait pas à s'en préoccuper davantage. L'INSPQ, selon Mme Blais, est arrivée le 19 mars avec une directive concernant les CHSLD. Ça m'amène à vous parler de l'équipement de protection individuelle. Vers la fin janvier, mis sur pied d'un comité de sécurité civile, quand on commence à voir ce qui se passe en Chine, à Wuhan, et la table des coordonnateurs évoque le recensement de l'équipement de protection, on en déduit entre janvier et mars qu'il y a suffisamment de pays d'équipement de protection individuelle pour une utilisation normale en CHSLD. Sais-tu où il y a une partie du problème qui fait surface? C'est que les CIUS et CIS ont le mandat de s'occuper de distribuer l'équipement de protection dans les CHSLD. Mais pour ça aussi, il faut que les dirigeants des CHSLD en fassent la demande. Il y a comme eu un manque de communication entre les deux. Si bien qu'on dirait qu'on est arrivé au mois de mars.
Parce qu'il y avait des réserves de matériel?
Il y en avait, mais pas assez.
Okay.
Clairement pas assez, parce que rendu au mois d'avril, les employés de CHSLD sacraient leur camp. Mm-hmm. Parce qu'il n'y avait pas assez de protection, puis ils craignaient pour leur sécurité. C'est là où on en est arrivé. C'est au début avril qu'on a eu un problème de perte de personnel. Et ce qu'a répété encore une fois Marguerite Blais durant son témoignage, elle l'a répété très, très, très souvent. D'ailleurs, là, Mme Blais, on avait l'impression d'assister au procès d'une accusée, là, qui, chaque fois qu'on lui posait une question, c'était pas un oui ou un non, c'était un « je vais vous expliquer tout le contexte autour
qui
de ça ».
Qui pose des questions?
C'est la coroner, entre autres, mais elle est accompagnée de plusieurs avocats qui représentent différents partis qui peuvent ensuite aussi questionner, tout comme quelques médecins aussi qui sont présents.
Moi, je l'ai écouté pendant une bonne heure et demie, là, parce qu'on dit qu'on ne peut pas diffuser d'extrait, mais on pouvait se brancher et l'écouter.
On était 200 quelques. Hein,
exact. Dont Horacio Arruda qui était là.
Oui, pendant ses vacances.
Yves Gendron, l'ancien.
Il était branché?
Oui. Yves Gendron, l'ancien sous-ministre à la santé.
Décroché, M. Arruda.
Non, mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui voulaient savoir qu'est-ce que Mme Blais était pour dire. Mais ce ton-là de procès ou d'inquisition, là, c'est Marguerite Blais qui le donnait. Je ne sais pas si c'est la même
personne.
C'est-à-dire que la coroner et les avocats, dans leurs questions, étaient très veulent comprendre. C'était pas oui, mais vous, Mme Blais. Mais Mme Blais était très, très, très sur la défensive.
Beaucoup. La coroner l'a répété plusieurs fois en l'entendant partir en vrai, en lui disant Mme Blais, on n'est pas là pour faire votre procès,
et
on n'est pas là pour faire
aussi.
Des reproches. On veut juste comprendre pour donner des réponses dans les prochaines semaines aux familles des 5000 quelques et 6000 personnes qui sont décédées dans les premiers mois où la COVID a frappé dans les CHSLD. Mais c'est une impression. Puis peut-être à la défense de Mme Blais, il y a des habitudes. C'est pas la coroner qui pose ces questions-là, mais des fois, c'est « voyez cette lettre-là, voyez la date, vous l'avez vue cette lettre-là ». Fait que là, t'es comme sa défensive. Si je te dis oui, tu vas-tu me mettre dans le trouble après? Mais c'est la job des avocats de s'assurer que on s'entend bien sur les faits avant de donner des réponses. Mais ouais, très, très, très sur la défensive. J'ai retenu un courriel de la représentante, la présidente de l'Association des établissements privés conventionnés qui va vous illustrer un peu à quoi ça ressemblait au mois d'avril, à savoir si on était en panique ou pas du côté du gouvernement par rapport à l'équipement de protection. C'est Annick Lavoie qui écrit, puis elle écrit pas. On dirait qu'elle n'a pas vraiment de canal de communication clair. Elle représente tous les établissements privés conventionnés qui doivent gérer eux-mêmes, techniquement, l'achat d'équipement. Ouais. Parce que les CHSLD vont faire avec les CIUS, les CIS.
Mais les privés,
les privés doivent s'arranger avec ce qui reste. Et le 16 avril, elle envoie un courriel à un sous-ministre à qui elle dit « Je ne sais plus à quel sein me vouer pour avoir de l'information sur qu'est-ce qui se passe, quelles sont les directives. » Elle dit « Là, j'entends parler qu'il y a des directives qui sont envoyées dans les centres aux directeurs et aux PDG des centres intégrés. » Elle dit « Nous, on ne les reçoit pas, ces courriels-là. »
Ça, je pense que Radio-Canada avait obtenu ce courriel-là.
Oui, tout à fait. Et encore une fois, Mme Blais a répété « La responsabilité, ça revenait au PDG, puis au privé conventionné et privé. » Et elle a aussi expliqué que, au mois d'avril, souvenez-vous, c'était une situation exceptionnelle. Il y avait des vols de cargaisons de masques. Tu sais, il y a un avion qui arrivait avec des cargaisons, des palettes, puis il y a du monde sur le tarmac qui allait dealer trois fois le prix pour s'arracher les masques. Ce que je comprends des propos de Mme Blais aussi, c'est que toutes les entreprises qui ont fait le virage là, pour faire de l'équipement de protection individuelle, ils ont sauvé les fesses du Québec. Parce que on
comme
était
des compagnies comme Bauer, mettons.
En bosse aussi, la compagnie de jeans, là, qui je me souviens plus du nom, là, je suis désolé, mais qui a tout changé pour pouvoir en fabriquer. C'est venu nous sauver les fesses. Ça aurait été encore pire au niveau de l'équipement de protection. C'est ce qu'a dit Mme Blais, pas par rapport aux entreprises, mais dit une chance qu'il y en avait, puis il faut plus que ça réarrive, qu'on soit pas capable d'avoir des manufactures comme
Quand tu penses à des compagnies, à des distilleries qui faisait du Purel. Et c'était pas juste destiné à tout le monde. Là. Écoute, la distillerie des Appalaches là, qui font le gin Kepler, là. Un moment donné, ils ont mis en vente, ils ont fait du
Arruda,
Purel.
Okay? Arruda Matata.
Oui, c'est l'Arruda Matata. Et là, ils ont annoncé qu'ils en mettaient en vente X quantité, mais que c'était plus pour les commerces. Pour... Et moi, ma blonde, à sa clinique médicale, il n'y en avait plus. Fait que moi, j'ai été sonné, j'ai payé, j'ai acheté, je pense que c'était 3 gallons d'Arruda Matata pour aller porter à la clinique de ma blonde. Mmh. C'était pas juste pour monsieur, madame, tout le monde. Mmh. Là, ma blonde, c'est dans le système de santé. Il n'y en avait plus. Mmh. Fait que ça a été ça, cette mobilisation-là. Là, tu parles des EPI, là, mais même le désinfectant, là, on se souvient plus de ça, mais c'était ça.
Ben, c'est qu'avant le mois de mars, on estimait, selon le décompte, que tout allait bien.
Mais c'était quoi le déclic, là, le 9 mars? Si on résume un peu, qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont réalisé comment? C'était des avis?
C'est la réunion du docteur Arruda.
Ouais, c'est la réunion.
Castonguay l'a raconté dans son livre.
Exactement. Puis la réunion découulait peut-être pas nécessairement de ça, mais l'OMS venait de dire officiellement que là, les personnes âgées étaient particulièrement vulnérables. C'est le 9 mars là, où il y a eu un déclic. Mais on se demande pourquoi il n'y a pas eu de préparation. Je vous envoie rapidement deux derniers petits points. CHSLD Aaron, 29 mars 2020, il y a un courriel qui est envoyé encore une fois à un sous-ministre. Situation difficile au CHSLD qui est évoquée dans le courriel. C'est le sous-ministre aux aînés. Établissement qui est déserté par le personnel. On commence déjà à parler de difficultés au Aaron.
Ça, c'est la fameuse fois, la fameuse fin de semaine, c'est Montreal Gazette qui avait
Il
n'y
avait plus
ça,
un show où les gens ont abandonné la place puis les gens sont restés dans leurs besoins, c'est-à-dire les couches pleines, etc., pendant des jours. Et c'est seulement 11 jours plus tard ou à peu près qu'il y a un article d'Aaron Derfeld de la Gazette, de Gazette, qui mettait en lumière tout ce chaos-là. Mais il y a un courriel le 29 mars. L'article sort dans un média anglophone le 10 avril et c'est à ce moment qu'on déclenche une enquête concernant Heron.
Peut-être pour résumer les gens qui nous écoutent, là, tu sais, il y a beaucoup de matériel dans ça, mais dans le fond, là, elle, est-ce que. Si je te dis, elle, c'est une pancarte, puis c'était d'autres personnes qui prenaient des décisions, c'est un peu ça qu'on retient aussi, là.
Et elle n'a pas été impliquée très rapidement, la responsable des aînés, entre le mois de janvier et le mois de mars. On comprend que les aînés n'étaient pas nécessairement la préoccupation numéro un par rapport aux mesures.
Moi, ce que je retiens de ce que j'ai entendu, c'est que Marguerite Blais, après la première vague, dans entre autres une entrevue qu'elle avait donnée, essentiellement ce qu'on avait retenu, c'est qu'elle disait, c'est pas de ma faute, j'étais pas écoutée, la cellule de crise, etc. Aujourd'hui, elle revoit cette version des faits-là, puis elle a été confrontée à ça, est-ce qu'elle a pris du recul. Puis aujourd'hui, dans le fond, elle dit, c'est pas de ma faute, c'est pas celle du gouvernement, c'est le contexte. Il y avait plus de si, c'était la pandémie, donc elle fait ça. Et ce que la coroner Kamel essaie de démontrer, c'est que c'est pas une mauvaise volonté, c'est que les aînés ont été oubliés. Ouais. Puis un avocat, à un moment donné, qui l'a questionné, qui a dit, écoutez, Mme Blais, pour savoir comment gérer la pandémie dans les soins intensifs, on a demandé aux intensivistes comment faire. Pour savoir comment gérer la pandémie au niveau des problèmes respiratoires, on a demandé aux pneumologues comment faire. Il n'y a pas personne qui a été voir les gériatres pour
leur dire
comment on s'occupe des aînés. À un moment donné, ils l'ont fait. Mais au début, il n'y a pas personne qui s'est tourné vers des spécialistes en ce qui concerne les aînés pour savoir quoi faire.
C'était
et ce qu'ils veulent savoir, c'est si Mme Blais a essayé de le dire. Et ça, c'est comme pas clair.
Et la coroner l'a fait remarquer, le comité là avec les gériatres, c'est de l'improvisation à ses yeux parce que c'est une sortie du docteur Nguyen qu'on a vu souvent et qui a dit ça n'a pas de bon sens, on ne nous consulte pas, il se passe des choses. C'était au mois d'avril et bizarrement, le lendemain, on le nomme président du comité des gériatres qui vont conseiller le gouvernement là-dessus. Et l'entrevue en question, là, une phrase qui avait marqué, c'est « Le pouvoir, c'est le PM qui te le donne. Tu prends ce qu'il te donne. » Puis elle a utilisé l'espèce de métaphore de l'arbre là, que peut-être qu'on avait trop le nez collé sur l'arbre et non la forêt.
Hâte de lire le rapport de la coroner. Est-ce qu'il reste encore beaucoup d'étapes?
Il reste un témoin, je pense que c'est le sous-ministre à la sécurité publique.
Qui va être clé. Lui va être clé, là, parce que la coroner pense que c'est lui qui va peut-être faire la lumière sur le bout qui manque dans le casse-tête.
Hâte de voir le rapport, hâte de lire ça. Est-ce qu'on aura besoin d'une enquête publique après ça? Une enquête publique plus large sur la situation des CHSLD? Puis je pense que oui, mais je trouve qu'on commence à avoir une bonne compréhension de ce qui s'est passé à cette époque-là. Hey, merci Philippe. Philippe
René-Comeau,
notre journaliste du réseau Cogeco ici à Québec. Midi 44, restez là. Beaucoup de choses à venir d'ici à 15h jusqu'à l'arrivée de Sylvain.
93, c'est l'heure du break. On revient dans pas long.
La radio qui fait parler.
Maison Adam.
C'est votre dernière chance pour profiter de la vente liquidation surplus d'inventaire chez Maison Adam. Pour l'occasion, José vous offre jusqu'à 40 % de rabais sur une sélection de téléviseurs et jusqu'à 50 % sur les meilleures marques en audio, que ce soit sur des produits neufs, boîtes ouvertes ou démonstrateurs. De plus, certains rabais additionnels sont disponibles en magasin seulement au 710 rue Bouvier.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Ouais, le mois de janvier, souvent, c'est le mois des factures. Faut payer les factures de la période des fêtes. Et peut-être que même avant la période des fêtes, les factures commençaient à s'accumuler. Vous avez peut-être reporté des paiements. Et là, c'est en train de péter, les créanciers s'impatientent. C'est le temps de faire appel à Jean Fortin. 1-877-LIBERTÉ, jeanfortin.com. Depuis plus de 35 ans, ils ont fait des finances personnelles des Québécois leur domaine d'expertise prioritaire. Parce que vous n'êtes pas les seuls, ils en ont vu d'autres. Et ils ont les solutions, c'est ça qui compte également. Peut-être commencer par le début, là, parce que souvent on est peut-être un peu en panique, puis on se dit, je vais-tu faire faillite, je vais-tu arriver? Commencez par prendre un grand respire et allez faire un tour sur ratioendettement.com. R-A-T-I-O, ratioendettement.com. C'est gratuit, c'est facile, c'est sécuritaire, c'est confidentiel. Et passez quelques minutes là-dessus, puis en quelques minutes, vous allez avoir le portrait réel de votre niveau d'endettement. Peut-être que c'est moins pire que vous pensez. Peut-être que vous allez avoir le signal que là, c'est le temps de prendre des moyens et des moyens costauds pour redresser vos finances. La solution est rarement la faillite. Il y a plein de façons d'éviter la faillite. Et si c'est la faillite, ben on va bien vous guider également dans ce processus-là. On vous le rappelle, c'est gratuit, 100% confidentiel. 1-877-LIBERTÉ, jeanfortin.com.
93. La radio qui fait parler.
Salut, c'est Max. Oh, janvier. Mes humains vont encore s'inscrire au gym puis y aller deux fois. Allez donc chez Animaux Bouffe me chercher une bouffe légère, un harnais puis des jouets. Ouf, m'a vous faire travailler, moi.
Animaux Bouffe, c'est 6 boutiques et animaubouffe.com.
Qu'est-ce que vous attendez?
De l'équipement pour aller faire du ski, on a ça. De la raquette à neige, aussi. Du patin, c'est sûr. Chez Sport Expert et Atmosphère, vous trouverez tout pour pratiquer vos sports préférés. En plus, obtenez jusqu'à 40 % de rabais sur la marchandise d'hiver sélectionnée. Détails en magasin ou sur sportexpert.ca.
Allô?
Chérie, as-tu le temps de faire l'épicerie?
Tout cuit, c'est réglé.
Gagnez du temps avec nos délicieux repas prêts à manger de qualité traiteur, cuisinés au Québec, livrés gratuitement et ce, sans aucun abonnement. Commandez avec Tout Cuit et choisissez nos boîtes repas thématiques ou créez les vôtres parmi une grande variété de plats individuels ou familiales qui plairont à tous.
Tout Cuit, c'est réglé.
Toutcuit.ca, une division du groupe Je reçois.
Vous avez un rendez-vous important? Une sortie? Vous devez aller porter vos enfants? Pas le temps d'appeler un taxi? Avec l'appli Taxi Coop, vous n'avez qu'à cliquer pour commander. Paiement tout simple et on vous écrit quand le taxi est arrivé. Taxi Coop 5191, téléchargez l'appli Taxi Coop.
Ce dimanche, assistez aux portes ouvertes de Construction Régent Morin. Visitez le nouveau développement familial à Pintendre, à proximité de tous les services et à quelques minutes du centre-ville. Rendez-vous à notre maison modèle ce dimanche de 13h à 16h, 312 rue Joseph Lambert, secteur Pintendre. Visitez régentmorin.com.
Industrielle Alliance Auto et Habitation est présentement à la recherche d'agents en assurance de dommages des particuliers avec ou sans permis. Une formation rémunérée à distance vous est offerte, ainsi que tout le matériel informatique nécessaire pour travailler de la maison. Stabilité d'emploi, salaire concurrentiel et primes pour les travailleurs bilingues. Venez mettre votre énergie et votre dynamisme à profit en rejoignant l'équipe d'Industriel Alliance. Pour postuler ou pour plus d'informations, visitez ia.ca/emploi. Industriel Alliance Auto et Habitation.
Vous l'attendiez. La vente qui vous offre des prix exceptionnels sur tous les matelas. La vente annuelle de matelas Dauphin. Économisez des centaines de dollars plus taxes payées sur tous les formats de matelas ergopédiques à ressort en sachet garantis 20 ans. Dont le format double, en spécial à 999 $ taxes payées. De plus, recevez 100 $ en carte cadeau. Ces offres et beaucoup plus pendant la grande vente annuelle dont tous les matelas Dauphin. Matelas Dauphin, la force du fabricant.
Trudeau Landry. Une chance qu'ils ont fait.
Jérôme Landry, Jonathan Trudeau. 93.
Avec le retour en classe et le plan de contingence du gouvernement qui va même jusqu'à prévoir peut-être de faire appel à des parents pour pas faire de la suppléance, mais aller surveiller des classes. Il y a une vidéo qui circule. On a l'impression que encore une fois, les Simpsons ont vu juste.
En cas de grève prolongée, juste ici. Voyons voir. Bon. Remplacer les professeurs par des robots super intelligents. Si les robots ne sont pas encore inventés, faire appel à des gens du voisinage.
Parler pendant classe, c'est un coup de palette.
regarder par la fenêtre. C'est un coup de palette.
Ouais, c'est un peu à ça que ça nous fait penser, finalement. On n'a pas envisagé les robots, mais en tout cas, les parents qui pourraient être...
Joe, le pire, c'est que c'est pas juste à Springfield, là. Va-t'en dans les régions du Québec, des profs qui ont juste un secondaire 5, ça existe, là. Qui embarquent dans la classe, qui n'ont pas de bac.
Oui, pour aider, tu prends ce qui passe.
Tu prends ce qui passe, des fois. On est chanceux à Québec.
Bref, il y a des craintes, on l'a évoqué, là, les syndicats qui certains appellent à la catastrophe annoncée, tout ça. On s'est dit, tiens, pourquoi pas aller prendre le pouls avec l'excellent enseignant au département de sciences et technologies à l'école Mont-Saint-Sacrement. Pas mal notre collaborateur en matière de système d'éducation, Pierre-Olivier Cloutier. Salut, PO! Est-ce que PO est là?
Oui, je suis là.
Salut, PO, comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Oui, troisième dose, comment ça va? Toi aussi, je pense que tu l'as eu un petit peu rough.
Ça a été quelques heures un peu pénibles, mais okay. pour ce que ça implique par la suite pour être bien protégé, ben, il faut ce qu'il faut, comme on dit.
OK, PO, comment tu as réagi hier à l'annonce donc du retour en classe? On peut pas, évidemment, ne pas être satisfait pour les élèves, mais le contexte, le sentiment de sécurité, ce qui a été fait, ce qui a été pas fait, tu te sens comment par rapport à ce retour-là, toi, lundi prochain?
Ah ben écoute, je pense que d'abord faut prendre une bonne respiration puis analyser un peu tout ça. Faut pas être, on est-tu vraiment surpris que Sylvain Mallette crie à la catastrophe? Non, faut pas l'être évidemment. Cependant, évidemment, prenons une bonne respiration puis évaluons un peu tout ça. Tu sais, c'est sûr que de mettre ça au scénario catastrophe, que des parents perdent le contrôle de la classe, que le feu pogne, et tu sais là, à un moment donné, là, restons quand même optimistes là-dedans. Là, je pense pas que les centres de services vont prendre ça à la légère. Je pense pas que les écoles privées non plus. Moi, je suis satisfait qu'on retourne en classe. Est-ce que j'ai peur pour ma sécurité personnellement? Non, faudra juste être vigilant. Je veux dire, on est exposé à ce virus-là depuis bien longtemps. On l'a été sans vaccination pendant plusieurs semaines aussi. Faut se rappeler qu'on a des mesures à mettre en place dans les écoles. Encore faut-il les respecter, évidemment, dans les milieux. Mais moi, je vois ça d'un bon œil. Puis là, concernant le plan de contingence, ben écoutez, il y a plusieurs détails là-dedans, on pourrait y revenir, mais moi je pense que globalement, il y a des grands oubliés là-dedans qui sont peut-être nos étudiants universitaires, mais globalement, je pense que les centres de services vont miser sur des acteurs du milieu, puis il faut que ce soit ça en priorité, parce que d'abord et avant tout, il faut préserver le lien de confiance des élèves, peu importe qui va être devant eux, là.
Mais à la base, PO, là, comment on devrait gérer ça, là, la COVID dans les écoles à compter de lundi? T'sais, nous autres, au primaire, on l'a vécu avant les fêtes. Là. Il y avait un cas dans la classe, on vide la classe, les élèves en isolement pendant 10 jours. C'était arrivé dans des classes 2 fois cet automne. T'sais, c'est comment ça devrait être géré, à ton avis, là, cette situation-là? Là?
Ben, écoute, moi, je suis pas un expert en santé publique, je suis pas un expert en pandémie ou quoi que ce soit. Moi, je sais une chose, c'est que j'ai les deux pieds d'une classe quand il y a des cas qui sont révélés. Et puis, c'est certain que la formule, c'est clairement la formule hybride, là. On l'a vécu l'année passée, du monde à distance, du monde en classe, tu donnes un petit peu à une gang, un petit peu à une autre gang. Fait que c'est sûr que cette formule hybride-là, c'est le pire scénario. Fait que si on peut éviter ça à tout prix, ben je pense que c'est préférable, évidemment, pour les milieux. Là où je me raccroche peut-être un peu aux critiques qu'il y a eu, c'est que est-ce qu'on n'aurait pas été mieux de prendre une semaine supplémentaire au retour des fêtes, notamment au secondaire peut-être, pour essayer de placer un peu le plan de contingence, s'assurer qu'on a une banque d'intervenants qui vont être capables de faire la job dans les différents milieux. Parce que là, vous parliez des régions tantôt, là. Tu sais, moi, je suis un enseignant, j'ai une couple de groupes, mais il y a des enseignants dans certaines régions qui ont plusieurs niveaux.
Ben oui, c'est ça.
Et là, ben écoute, si cette personne-là est isolée, ça te prend plusieurs remplaçants pour ces groupes-là. Donc, moi, je peux pas, je commencerai pas à jouer au gérant d'estrade avec, vous savez, j'ai déjà été très critique avec M. Roberge. Je pense que, fondamentalement, il y a des grands oubliés qui sont nos étudiants universitaires. Moi, je comprends pas encore pourquoi on fait pas appel aux facultés de sciences de l'éducation. Pourquoi qu'on donne pas une grande consigne de dire, ben là, votre début de session de janvier, là, ça va être asynchrone. Vous allez les donner un coup de main à nos profs dans les écoles.
Ou les retraités, comme en Ontario, les retraités, il y en a-tu qui pourraient aider aussi, PO?
Ben absolument. Puis c'est sûr que là, il y en a qui, qui sont partis en 2020 à cause de ça. Fait que je suis pas sûr qu'eux veulent revenir tant que ça. Mais je pense qu'on a des ressources qui peuvent être mobilisées. Et puis on est toujours frileux d'aller demander aux facultés universitaires. Puis ça, je la comprends pas honnêtement. On dirait que ces gens-là ont une chasse gardée sur les stages. C'est difficile de faire de la suppléance aux stagiaires, alors qu'eux autres demandent juste ça, pas juste parce que c'est payant, mais parce que c'est de l'expérience. Alors on peut-tu essayer de se donner on aurait pu se donner une semaine de plus, je pense, pour évaluer tout ça, puis avoir un peu de renfort. Puis là, avec les parents, là, prenons donc deux secondes, là, une bonne puff d'oxygène. C'est sûr que s'il y a des parents qui viennent prêter main forte dans les classes de primaire notamment, là, il faut accompagner ces parents-là, mais on mettra pas là des gens qui n'ont pas d'aptitude et certaines compétences dans ce domaine-là. Là, je peux. Puis on va les accompagner comme on accompagne déjà dans certains centres de services des éducatrices, éducateurs en service de garde qui sont actuellement formés pour prêter main forte en suppléance aux profs. Alors ça, je trouve ça proactif, là. Ouais. On n'attend pas de se faire mettre le nez dans notre caca, là, pour prendre une expression populaire. On est proactif, on met de l'avant des solutions créatives. Puis ça, j'apprécie ça. Puis ça, je pense que c'est aux premières seigneuries actuellement qu'on est en train de faire ça, là.
Je sais que tu parles à bien des gens dans le milieu, t'es bien branché. De façon générale, est-ce que c'est un peu le sentiment, est-ce que tu nous partages, est-ce que c'est assez généralisé? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que, par exemple, on va rapidement arriver à un scénario où ce sera presque plus praticable, qu'il va y avoir tellement d'enseignants qui vont être sur le carreau, qu'on va être obligé de fermer les classes, qu'il va manquer trop de chauffeurs d'autobus, de surveillants, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui anticipent l'apocalypse, le chaos, ou... T'sais, même si c'est pas parfait, on va réussir à aller de l'avant.
Ben c'est très partagé, puis je te dirais que comme à l'habitude, ben il y a une proportion des gens qui vont se ranger peut-être derrière un discours plus alarmiste, puis parce que bon, pour des bonnes raisons, là, moi je suis pas là pour juger ça. Moi j'aime mieux prendre une semaine à la fois, puis essayer de voir le côté positif des choses, puis essayer d'être proactif. C'est surtout ça. Tu sais, c'est beau de critiquer ce qui est mis de l'avant. Proposons des choses. Il y a des gens qui ont des tribunes, là. Tu sais, un Sylvain Mallette, là, il parle fort, puis les gens l'écoutent, ben qui proposent des solutions constructives. Puis c'est la même chose pour les grandes centrales qui sont très critiques actuellement sur le plan de contingence. Proposez-nous des solutions. Madame Scalabrini, elle va-tu y aller d'une classe pour superviser un prof qui est à la maison?
Ça, c'est bon, non, ça, mais les délégués syndicaux, t'as raison. Ouais,
oui. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que c'est... Puis je comprends là, le de voir le pire de la situation, mais mettons-nous dans une situation proactive, puis donnons un coup de main à nos dirigeants d'établissements scolaires, parce que là, ce qui se jase actuellement beaucoup, c'est que là, la santé publique est en train de pelleter la gestion des cas dans les cours de direction d'établissement. Là. Alors là, c'est eux qui vont devoir gérer qui est isolé, qui est pas isolé. Et là, des études de comme ça, de savoir qui revient quand, là, ça va être un beau casse-tête pour les gestionnaires scolaires qui en ont déjà plein les bras, tant qu'à moi. Là.
Hey, dis-moi donc, P.O., comment ils vont tes élèves? Moi, je suis évidemment, nous autres, nos enfants sont au primaire, P.O., puis je suivais les cours à distance, j'entends un peu ce qui se passe et tout ça. Les profs ont l'air quand même ultra dynamique malgré le contexte. Je trouvais que les profs se donnaient, tu sais, ça communique, ça a beaucoup d'efforts qui sont mis aussi pour rendre les cours à distance dynamiques. Tes élèves, est-ce qu'ils sont réceptifs? Comment tu trouves ça, toi, enseigner à distance?
Ben écoute, c'est sûr que de plus ça va, puis c'est triste de dire ça, mais ils sont rendus habitués, mais plus ça va, plus ils ont développé des habitudes, je vous dirais, qui sont plus saines. Bon, encore une fois, des élèves qui ont de la difficulté, c'est exponentiel 1000 à distance. Ça, on se le cachera pas. Des élèves qui sont désengagés, c'est exponentiel 1000 à distance aussi. Et puis là, il y a toujours des bonnes raisons pour se faufiler. Mais globalement, si je regarde mes élèves, là, je vais penser à ma gang de secondaire 5 que je vais voir cet après-midi. Un vendredi après-midi qui fait un beau soleil, ils vont être en cours de chimie de 1h à 4h.
Oh.
Fait que ça va être un peu ça. Mais nos ados, ils tiennent bon, mais eux, ils ont hâte de retourner à l'école. Mais on n'a pas le choix. De penser à dire, ben là, s'ils se retrouvent avec des suppléants, avec des profs qui doivent s'occuper de 2-3 groupes, je suis pas certain qu'on va être plus efficace que si on avait fait une semaine de plus à distance. Mais ils vont, Je pense qu'ils sont contents de retourner, mais il y a quand même des côtés positifs à l'enseignement à distance. Ils se lèvent plus tard, ils ont un petit café, ils restent en mou. Il y a tout ça aussi. Là.
mais de façon générale, ton appréciation de l'enseignement à distance, là, pis tu sais, je comprends que tu es dans une école privée, il y a peut-être plus de moyens, je sais pas, mais tu sais, vraiment au niveau général, global, là, comment toi tu le vois? T'sais, avant les fêtes, quand ils disaient qu'ils voulaient pas fermer toutes les écoles en avance et tout ça, il y a quelqu'un, moi, au gouvernement, au placé, qui m'avait dit, on se fera pas de cachette, là, l'enseignement à distance, c'est une catastrophe. C'est le mot qu'on avait employé. C'est une catastrophe. On veut pas aller là. Et là, finalement, ils ont comme pas eu le choix de repousser d'une semaine, mais j'ai l'impression que ce constat-là qu'ils ont fait au gouvernement les a aussi guidés dans les décisions qu'ils ont prises. Toi, c'est quoi la conclusion que t'en tires, le constat, le résultat?
OK. Ben écoutez, moi j'ai un point de vue nuancé. C'est sûr que la raison pour laquelle les données vont nous le dire, d'ailleurs, les données scientifiques de faculté d'éducation vont nous le dire, la raison pour laquelle c'est une catastrophe, c'est que c'est pas monitoré, c'est pas planifié, ça a été pitché. Et la raison pour laquelle l'enseignement à distance, là, il y a une façon efficace de le faire. Il y a une façon efficace de le faire pour une certaine frange d'étudiants. Moi, je l'ai quand même bien vécu. Je vous dirais que je vois les effets. Évidemment, c'est une rétention qui est beaucoup moins efficace, là. Ça, on va se le dire. C'est pas une surprise pour personne. Mais une catastrophe, là, la raison pour laquelle c'est une catastrophe, parce que les moyens techniques étaient pas... On n'avait pas pensé à ça. On n'avait pas formé les profs pour ça. Une pédagogie active à distance, les gars, c'est pas comme une pédagogie en classe. Et malheureusement, on a trop reproduit le modèle traditionnel devant un groupe de 30 élèves, mais derrière un écran. C'est ça qui a été une catastrophe. C'est qu'on n'avait pas anticipé qu'on aurait besoin rapidement de faire de la pédagogie de type active à distance. Et là, ben, on commence à être bon. Là, on commence à être pas pire parce que les profs se sont formés. Mais au départ, la catastrophe vient du fait que nous n'étions pas prêts à ça. Puis évidemment, ça fait référence à des discussions qu'on a déjà eues ensemble. C'est pas le même type de pédagogie. Et ça, il aurait fallu écouter peut-être un petit peu plus nos chercheurs en éducation dès le départ et les gens qui avaient l'expérience avec le numérique. Mais on les a pas écoutés. On a voulu y aller de façon à pas déplaire à personne, sans trop brasser, sans trop faire de vagues. Et là, la réalité, c'est qu'on a laissé certains profs complètement seul avec un écran Google Meet ou Teams ou peu importe qui faisait du mieux qu'il pouvait. Mais c'est ça le nerf de la catastrophe, c'est qu'on n'était pas prêt.
Ben, c'est ça. Puis je comprends ton contexte au secondaire, mais vois-tu, tu parlais d'université tantôt. Moi, ma blonde est en train de faire des cours de deuxième cycle. Elle se croise les doigts pour pas que ça revienne en présentiel. Parce que pour quelqu'un qui travaille à temps plein puis qui essaie de faire un diplôme de deuxième cycle, c'est pas mal plus pratique le faire à distance, soit au bureau ou à la maison aussi. T'sais. Fait qu'il y a quand même du bon là-dedans aussi, même si ça a été, je comprends, tout un défi pour vous autres aussi.
Oui, absolument. Mais voilà.
OK, 2022, on garde nos bonnes habitudes. Puis on va finir en parlant du travail exceptionnel de quelques-uns de tes collègues.
Oui, ben écoute, je peux pas faire autrement avec mes deux petits bouts à la maison de saluer le travail de Bénédicte, de Madame Bénédicte Pelchat, de Madame Isabelle Dutille, de Monsieur Michel Hainaut, de Monsieur Michel Boucher de l'école primaire de Châteaudeau à Loretteville. J'ai la chance d'avoir une tribune avec vous, messieurs, pour leur dire un gros merci pour la belle semaine. C'est des profs qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et qui ont été phénoménales cette semaine pour mes deux enfants. Fait que je fais un petit peu de je m'approprie un petit peu la tribune aujourd'hui pour leur dire bravo, la gang de Châteaudeau, puis Madame Karine Dubé, qui est la directrice, qui fait un travail colossal pour cette école-là. Donc merci à tous.
Et moi, je félicite le prof P.O. Cloutier, qui doit être un excellent prof aussi pour ses élèves à l'école Mont-Saint-Sacrement. Merci, P.O.
Merci, messieurs.
Hey, bonne rentrée.
Salut. À la prochaine.
Pierre-Olivier Cloutier, notre excellent enseignant au département de sciences et technologies à l'école Mont-Saint-Sacrement. Hey, je voulais te... Là, je sais qu'on fait de la radio, là, ça va être contre-productif, mais tu pourras décrire sur le masque N95.
Ouais.
Ma conjointe était de garde hier à l'hôpital et elle m'a envoyé des photos de sa face parce que le seul moment où elle peut enlever son masque, c'est quand elle est dans sa chambre de garde. Fait que, tu sais, je pense que je l'avais dit, je suis pas sûr, mais tu sais, mettons, à part depuis quelques semaines, depuis qu'ils ont recommencé N95 tout le temps et tout ça, elle s'apporte même pas de café à l'hôpital parce que tu joues pas avec ça. Tu le mets dans la face, tu le gardes.
Il reste là, ouais.
Regarde cette photo-là puis regarde l'autre d'après là, que je te
montre. Il y a des marques assez claires, là.
Regarde, écoute.
Ouais.
On dirait qu'elle s'est faite battre, là. Quand elle enlève le masque, là, les boursouflures en dessous des yeux, le nez tout rouge. Sur le côté de la joue, là, elle ressemble un peu au Joker. C'est comme si c'était des grosses cicatrices en X. C'est tout sauf le fun de porter un N95 bien ajusté. Et ce que ma blonde me disait, elle, son point, c'est pas que les enseignantes et les enseignants seront pas capables de le porter parce que eux autres sont capables, mais pas eux autres. Non. C'est que elle, sa job, c'est pas de parler puis de projeter devant une classe pendant des heures de temps en plus. Non seulement, oui, ils sont plus habitués eux autres, mais c'est pas le même contexte. Fait que, tu sais, sur le martelage que ça prend des N95, je vous le dis, là, moi, je suis d'accord avec l'idée, proposez-leur. Il y en a un million qui ont voulu vendre aux enchères, puis qu'on nous a dit qu'ils n'étaient pas de grade médical. Bon, ben, s'ils n'ont pas de grade médical, envoyez-les dans le système d'éducation, offrez-les aux enseignantes, aux enseignants qui veulent les essayer. Mais je vous le dis, ça me surprendrait qu'il y ait une majorité d'enseignants qui vont se promener avec un N95 d'en face à longueur de journée parce que c'est pas le fun.
Ben, c'est ça. Pierre, ça a fait jaser, ça, quand même, ce bout-là, là, du nouveau directeur de santé publique qui est encore dans le même. Il est encore un peu dans le même courant d'esprit que ne l'était le docteur Arruda là-dessus, là, sur le port du N95, là, dans les écoles, entre autres. Là.
Exact. OK, bon, on va faire une pause. 13h05, 25226, si vous voulez nous rejoindre dans Trudeau-Landry, 670-9330. Comment ça se passe sur la circulation? Ça a l'air d'aller pas si mal. Tiens, avant d'aller à la pause, pourquoi pas, je vais faire le grand gagnant ou la grande gagnante de notre super concours avec le 47, qui va mettre du soleil dans votre maison. 10 boîtes gourmandes qu'on offre, c'est d'une valeur de 1150 $, 10 boîtes gourmandes pour deux et en plus le traditionnel coffret gourmand de la Saint-Valentin. Et la grande gagnante, c'est Isabelle Giguère. Félicitations donc à Isabelle Giguère qui gagne ce gros lot assez fantastique, sincèrement. Là. Ça te fait 11 boîtes gourmandes du 47. Et pour ce qui est des autres, ben vous avez le temps encore de vous inscrire. C'est la dernière journée pour vous procurer ce forfait-là. Donc, à 850 $, une valeur de 1150 $, c'est toute une économie. Et il y a 10 fins de semaine que votre repas, il va être réglé. Et vous savez que ça va être délicieux, assurément, avec l'expérience du 47. Alors, félicitations à Isabelle Giguère. On s'arrête dans Trudeau-Landry.
93, la radio qui fait parler. On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là.
Pour les plus gros rabais sur des matelas neufs, c'est matelasarabais.com. Jusqu'à 60% de rabais sur tous les produits et jusqu'au 31 janvier, ils paient les deux taxes, surtout en ligne et en magasin. Par exemple, matelas 2 places à $399, taxes incluses. Et en plus, la livraison est gratuite. matelasarabais.com. Le plus grand choix de lunettes pour